On va commencer, c'est donc un carrefour sur la vie éternelle. Ce n'est pas ce que l'on croit, voilà, c'est un peu une approche nouvelle. Alors, il y a trois parties, faciles à retenir. L'eschatologie, un grand mot, qu'est-ce que ça veut dire l'eschatologie? Deuxième partie sera le désir du ciel. Et troisième partie, ce sera hâter la venue du Christ. Alors, l'eschatologie, ce n'est pas l'essai cathéologie. Hein. L'eschatologie, c'est la théologie, dans l'expression intéressante, de l'eschaton. Eschaton, c'est le Christ dans la gloire. Ça n'a rien à voir avec les fins dernières. L'eschatologie, ce n'est pas les fins dernières. Ce n'est pas la mort, le paradis, on vous en a parlé ce matin, le paradis, le purgatoire, l'enfer. L'eschatologie, ce n'est pas ce qu'on croit, n'est-ce pas? Ce n'est pas les fins dernières. Et nous sommes donc invités à changer de façon de voir. L'eschatologie, ce n'est pas les fins dernières. Ce n'est pas la fin de notre vie. Ce n'est pas la fin du monde. Alors, l'eschatologie a mis beaucoup de temps dans l'histoire pour arriver à nos oreilles, avant d'arriver à notre tête, à notre cœur. C'est un mot qui arrive pour les catholiques au Concile Vatican II, 1963-1965, qui était né en 1962. Ah si, bon, alors vous êtes au courant de ce qui s'est dit au Concile, n'est-ce pas? Hein? Bah oui, si vous êtes né, vous avez tout écouté. Qu'est-ce que dit le Concile Vatican II? Dans le grand texte sur l'Église, qui s'appelle Lumen Gentium. Vous connaissez, ça vous dit quelque chose, Lumen Gentium? La lumière des peuples. L'Église est la lumière des peuples, comme un phare qui montre le port. Et donc, dans ce texte sur l'Église, il y a un chapitre, chapitre 7, 5, 6, 7, qui parle de l'eschatologie. Ou plus exactement, de l'Église qui marche vers le royaume. Donc, on parle encore de marche. N'arrête pas. Pèlerinage, etc. Et qu'est-ce que dit l'Église? Je vais vous citer ce que dit l'Église sur cette marche vers le royaume, ce marche vers Jésus. Je cite, deux points, vrai et guillemets. L'Église, à laquelle nous sommes tous appelés dans le Christ, et dans laquelle nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu, n'aura sa consommation que dans la gloire céleste, lorsque viendra le temps où toutes choses seront renouvelées, et que le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Bon, c'est un peu compliqué, mais est-ce que vous avez entendu parler de la fin des temps? Ah bon? Vous êtes fort. Vous avez entendu le retour du Christ? Ah bon? Vous êtes fort. Vous avez entendu parler de paradis? Ah ben, vous êtes fort. Le mot. Vous avez entendu parler d'enfer? Purgatoire, paradis, vous êtes fort. Hein. Parce qu'il n'y a pas un seul mot sur les fins derrière. Il n'y a pas... quand là, ici, là, dans le texte, je recommence. Dans le texte que je viens de lire, est-ce qu'il y a tous ces mots que je vous ai dit? Quel est le mot principal? On le dit deux fois. Non, il n'y a pas le mot royaume. Vous n'avez pas écouté, hein? C'est embêtant, ça. Je recommence. L'Église à laquelle nous sommes tous appelés dans l'Église, dans le Christ, et dans laquelle nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu, n'aura sa consommation que dans la gloire céleste, lorsque viendra le temps où toutes choses seront renouvelées. J'ai des gestes, hein. Et que, avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement lié avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Christ, merci. Le mot qui revient dans ce texte, c'est Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ. L'eschatologie, c'est d'être réunis tous ensemble dans le Christ. C'est ça l'eschatologie. Voyez ? C'est pas moi personnellement je vais te sauver, c'est tous ensemble, hein, comme dit saint Paul, avec toute la création qui gémit dans l'attente, hein. Connaissez ce passage. Tous ensemble, tous, nous serons dans le Christ. Et l'eschatologie, c'est la théologie du Christ final. C'est pas une doctrine sur des choses, sur des lieux, sur des moments, c'est le Christ. Ici donc, il est question du Christ qui nous rassemble, qui nous sanctifie et qui donc nous donne de pouvoir être dans l'unité de l'Église. L'eschatologie, ça va vous plaire, ça. C'est la rencontre avec une personne. Jésus-Christ. Eschatologie, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'est-ce que va se passer après la mort. Si tu rencontres Jésus-Christ, tu rentres dans l'eschatologie. Tu es eschatologique. Ma sœur, c'est vous qui avez posé cette question ? Très bien. Alors, quand tu es baptisé, normalement, on demande aux parents, qu'est-ce que vous demandez pour votre enfant ? Le baptême. Qu'est-ce que donne le baptême ? La foi et la vie éternelle. Quand on est baptisé, donc quand on est dans le Christ, on rentre dans la vie éternelle. La vie éternelle est déjà commencée le jour de notre baptême. Je comprends que c'est pas facile à comprendre, parce qu'on a toujours été rabâché dans nos têtes que la vie éternelle, c'est quand on sera raide mort et que reposera en paix, hein. La vie éternelle, elle commence aujourd'hui. Elle a commencé le jour de notre baptême. Je vais vous donner encore deux exemples. Dans les 8 béatitudes, vous connaissez les 8 béatitudes? La première et la dernière, elle est au présent. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu ne sera, est à eux. Si le royaume de Dieu est déjà donné, je suis déjà dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas besoin d'attendre que je rentre dans le royaume de Dieu définitivement. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est dans Saint Luc. Quand il envoie les disciples, vous savez, les apôtres, dites-leur que le royaume de Dieu est tout proche, est ici. Que le royaume de Dieu, c'est moi. Que le royaume de Dieu, même, dit Saint Luc, est en vous. Ça vous parle, tout ça, ce que je vous dis? Bon, j'espère que ma sœur, vous êtes convaincue. Merci, ma sœur. En fait, je l'ai payé très cher, hein. Donc la vie éternelle, ce n'est pas ce qu'on croit, ce n'est pas après la mort, on rentrera dans un paradis qui sera éternel. La vie éternelle est déjà commencée puisque c'est la rencontre avec une personne, le Christ. Nous sommes tous déjà dans la vie éternelle. Il n'y a pas la vie d'ici-bas et la vie de là-bas. Il n'y a pas ici la terre et là-bas le ciel. On est déjà dans le ciel. Et donc, Ce texte, je vous ai dit qu'il date de 1962, n'est-ce pas? Si, à peu près. 62, 65. Moi, je suis né en 66. J'ai pas connu, donc j'ai le droit de me tromper, mais pas vous, hein? Donc, ce texte, il a déjà été abordé par nos frères protestants en 1947, avec cette phrase que vous connaissez et qui vient d'un certain Kuhlmann. C'était un homme qui est cool, Kuhlmann, allemand, n'est-ce pas? En 1947, cette formule que vous connaissez, « Le royaume est déjà là et pas encore. » Le royaume est déjà là et pas encore. Cette expression qu'on dit souvent dans la communauté, mais parce qu'on était fondé par des protestants qui connaissaient cette phrase par cœur. Déjà là et pas encore. Donc le royaume est déjà là. Le concile développe cette idée du déjà là et pas encore. Pour reprendre cette idée, le royaume est déjà là. Il a déjà emporté ce royaume de Dieu sur le royaume du mal, mais il n'est pas encore totalement installé. Il s'installe petit à petit. Parce qu'on a beau dire que ça va mal dans l'église, ça va mal dans le monde, plus rien ne va, mon père, voilà. Bon, écoutez, vous connaissez l'histoire d'un homme qui dit, mon père, je suis triste, on peut plus, j'ai failli me pendre. Alors, le prêtre lui dit, bien, écoutez, vous rentrez chez vous, vous ouvrez la Bible, le Seigneur va vous parler. Il ouvre la Bible, repends-toi. Bon, bah, ça a pas marché. Mais, regardons les choses sérieusement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a plus de saints qu'à 100 ans? Est-ce qu'on a plus d'églises qu'à 400 ans? Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a plus de chrétiens aujourd'hui qu'avant? Ben oui, de chrétiens, il y en a 2,5 milliards dans le monde. 2 milliards, on est la religion chrétienne la plus grande au monde. Alors arrêtez de hein? Bon. Sinon je vous prends entre quatre yeux et on en reparle. Donc l'espérance, elle grandit, même si c'est pas facile, même si on a des vies difficiles éprouvantes, même si nos enfants, petits-enfants ne suivent pas notre chemin de foi, le Seigneur les rattrapera. Rappelez-vous cette histoire quand même très connue dans l'histoire de l'Église. De saint Augustin et de sainte Monique. Saint Augustin était très très mal, très 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 mal parti, hein, très mal parti. La secte, les fêtes, les femmes, l'hérésie. Et petit à petit, il est devenu un des plus grands saints de l'Église catholique. Voilà, il n'y a rien n'est perdu. Bon, l'espérance grandit. Pas de triomphalisme cependant, bien évidemment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épreuves qui nous humilient, même dans l'Église, mais une espérance. Ce qui va donner donc, en 1964, pendant le Concile Vatican II, un livre protestant encore, qui s'appelle « La théologie de l'espérance ». La théologie de l'espérance. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, une chose en particulier... L'eschatologie, ce n'est pas la fin de l'Église, c'est le milieu de l'Église. Le milieu comme centre, le milieu comme on pourrait dire, comme un milieu, quoi, un milieu de vie, hein. Et le milieu parce que c'est au centre. Et que, dit ce même auteur, un chrétien véritable est un chrétien eschatologique. C'est un chrétien qui aspire de toute sa vie, de tous ses pores, de toutes ses heures, de toutes ses journées, de tous ses mois, à rencontrer Jésus définitivement. Voilà. On peut pas vous dire mieux. l'essence du christianisme, c'est d'être eschatologique. Voilà. On retrouve ce texte dans le texte de Benoît XVI, mais je sais qu'on vous en a parlé ce matin, Spes Salvi, c'est bien ça, on vous en a parlé ce matin. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup qui suivent, hein. Bon, c'est l'heure de la sieste. On m'entend pas bien? On m'entend mieux? Excusez-moi. Est-ce que vous avez entendu parler du texte de Benoît XVI ce matin? Voilà, je ne reviens pas dessus. Alors, la prière eucharistique numéro 3, qu'on dit à la messe, redit cette même idée, hein, souligne donc le réalisme de cette vie dans l'eschatologie et du caractère plénier dans le Christ. Puisque il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitant les morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. C'est un passage de la prière eucharistique numéro 3. Qu'est-ce qu'on dit? C'est, puisqu'il était baptisé, accorde-lui participer à la résurrection où nos pauvres corps seront pareils au corps glorieux. Donc il y a un commencement au baptême et une finitude à la résurrection du Christ, résurrection finale. La résurrection aussi, par exemple finale, implique un aspect commun. Je ne ressuscite pas tout seul, je ressuscite en Église. Je vis la vie éternelle pas tout seul. Je la vis en Église. C'est pas mon salut qui compte, c'est le salut de tous. Hein? Dieu veut que tout homme soit sauvé, dit la première à Timothée. Bien. Donc vous voyez, la vie éternelle, ce n'est pas ce que l'on croit. C'est au centre de nos vies et c'est la rencontre avec le Christ qui nous emmène à sa suite à travers l'Église, à la plénitude de toutes choses. Il est, ce qu'on peut dire, l'eschaton, le Christ est l'eschaton, E-S-C-H-T-O-N, l'eschaton, c'est-à-dire le centre, la finitude, le rassemblement de toutes choses. Voilà. En dehors du Christ, voilà, pas de salut. Avant, on disait en dehors de l'Église, mais en dehors de l'eschatologie, cette tension vers le Christ, eh bien, nous ne serons pas sauvés. Voilà ce que dit donc quand même un texte des années 2000. Son règne, le règne de Christ, n'est pas dans un au-delà imaginaire, placé dans un avenir qui ne se réalise pas, son règne est présent là où le Christ est aimé. Voilà. Penser que tout ira bien quand on sera au ciel, qu'on se reposera quand on arrivera au ciel, ce n'est pas chrétien. C'est ce qu'on appelle de l'eschatologisme. C'est-à-dire que on appuie trop sur ce qui va se passer après, et puis on fait rien. Hein? Comme disait Paul Naref, on ira tous au paradis. Bon, faisons n'importe quoi, et puis on ira tous au paradis. Daniel Balavoine, il dira, je me trouverai toujours un Dieu pour me sauver. Ben non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Donc ça veut dire que notre vie, aujourd'hui, a une valeur d'éternité. Notre amour a une valeur d'éternité. Notre foi, notre espérance ont une valeur d'éternité. Nos actes sont orientés vers le salut de tous. C'est ça qui change nos actes. c'est pas que je veux faire le bien, c'est pas que je veux bien faire le bien, c'est que je veux que tout le monde soit sauvé. Moi, si possible, mais surtout les autres. Vous connaissez cette histoire de Saint Antoine du désert? Un jour, on dit à Saint Antoine, qui était dans le désert, comme son nom l'indique, « Tu sais, dans ville, il y a quelqu'un de plus grand que toi. »
« Quoi ?
Moi, je jeûne, je dors sur la paille, je prie tout le temps, jour et nuit. Comment quelqu'un peut être plus grand que moi ?» Donc il va en ville, et puis il demande « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est grand, qui est saint ?» Il lui dit « Oui, oui, le cordonnier là-bas. »
« Quoi ? Un cordonnier ?»
Alors il va voir le cordonnier, il dit « Mais il paraît que t'es plus saint que moi. » Ben moi je dis simplement quand je prie, quand je vois quelqu'un qui vient à mon atelier, je dis à mon cœur « Faites, Seigneur, qu'elle soit sauvée. » Mais moi, ça m'est égal. Mais fais que l'autre soit sauvé, moi. Ça, c'est de l'amour. Et ça, je pense que c'est la grandeur de cette prière, de ce cordonnier. Que j'aille en enfer, ça m'intéresse, peu importe du moment que l'autre soit sauvé. À mon avis, il ira pas en enfer, puisqu'il aime tellement les autres, qu'il est prêt à sacrifier son salut éternel. Comprenez? Voilà. C'est ça aussi l'eschatologie. C'est pas mon petit bonheur à moi, mon petit ciel à moi, mon petit siège, mon petit trône. C'est le salut de tous. Donc ce n'est pas une eschatologie personnelle, c'est une eschatologie ecclésiale. Voilà ce que c'est. Voilà, vous voyez déjà quelques bouleversements intellectuels. Alors deuxième partie, c'est le désir du ciel. Alors pour soi et pour tous. L'homme, la femme, l'enfant est principalement fait de désir. Le monde entier est rempli de désir. Est-ce que le désir, c'est mauvais? Pas toujours. Mais le désir n'est pas le plaisir. Le plaisir, c'est égoïste. Le désir, au contraire, c'est noble. Vous connaissez cette histoire d'un prédicateur d'un foyer de charité? Une dame vient le voir à la fin, et puis elle dit « Oh, j'ai beaucoup aimé ce que vous nous avez dit. »« Ah bon, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous avez bien aimé ?»« Ben, c'est quand vous avez dit « Tournons la page. » »« Ah, ben, je me suis dit, il faut que je tourne la page. »« Tournons la page. » »« Je tourne la page dans ma vie. » C'est ce que je viens de faire, je viens de tourner la page. Donc, le vrai seul désir, c'est Jésus. Saint Paul le dit dans Philippiens, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Au plus tard, il ira deuxième aux Corinthiens, nous savons en effet que si notre habitation terrestre n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite de main d'homme, et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. le ciel, la vie éternelle, la vie dans le Christ glorieux, ça ne se gagne pas. Ça se gagne pas à force d'efforts. Ça ne se calcule pas. Et ce n'est pas automatique. Le Concile Vatican II dira des phrases assez terribles. Il dira qu'une personne qui est de corps et non pas de cœur dans l'Église ne peut pas être sauvée. Terrible, hein? Ben, c'est un peu ce que dit Jésus, hein. Vous m'honorez du bout des lèvres, mais votre cœur est loin de la volonté du Père. Il y a aussi un autre texte dans l'Église, on appelle un dogme, qui dit que si quelqu'un affirme qu'il est sauvé, sauf en cas de révélation privée, si la Sainte Vierge vous dit « vous allez être sauvé », bon, d'accord. Donc si quelqu'un dit qu'il est sauvé, qu'il affirme qu'il est sauvé, qu'il soit anathème. On ne peut pas dire « je suis sûr d'être sauvé ». Je ne suis sûr, j'espère être sauvé. Je désire être sauvé. Je veux être sauvé. Mais j'en suis pas sûr. C'est ça qui est un peu le vertige. Je veux approfondir cette question du désir. Saint Augustin disait, donc, 4e siècle, après Jésus-Christ, toute la vie du chrétien est un saint désir. Toute la vie du chrétien est un saint désir. Nous sommes libérés des désirs morbides par la foi en la croix de Christ, par laquelle la mort a été suspendue à un arbre. La foi, l'espérance, la charité, la louange réorientent nos désirs vers le seul qui peut les assouvir. Il dit encore, notre exercice ici-bas, ce doit être la louange de Dieu, car notre bonheur dans l'éternité, ce sera la louange de Dieu. Le désir de rencontrer Jésus face à face, le Père face à face, l'Esprit Saint face à face, c'est le désir donc de cette rencontre avec le Christ. Mais c'est aussi le désir de sa présence dans ma vie. Je désire chaque jour me mettre en présence de sa présence. Sa présence dans l'éternité d'aujourd'hui. Le pape Benoît XVI disait « L'homme est dans le ciel quand et dans la mesure où il est auprès du Christ par qui il trouve le lieu de son être en tant qu'homme dans l'être de Dieu. » Désirer le ciel, c'est désirer voir Dieu dans ma vie quotidienne. Le seul moteur, vous voyez, du chrétien, ce n'est pas « je crois », la foi, « je suis sûr », la certitude intellectuelle, c'est le désir. Si nous désirons le ciel, eh bien, nous aurons notre chance. Nous serons vraiment dans le désir. Ce désir du ciel dans mon cœur qui viendra grandir petit à petit pour l'éternité, ce désir du ciel, ce n'est pas une fuite de nos responsabilités, hein. Ce n'est pas une fuite de la vie terrestre, ce n'est pas une fuite de nos combats, de nos difficultés. Loin de là, c'est faire rentrer dans ma vie quotidienne ce désir de rencontrer Jésus pour toujours. Plus encore, je désire que tous rencontrent Jésus pour toujours. Et plus encore, que les autres le rencontrent. Moi, c'est pas grave. En disant ça, vous êtes sûr d'être sauvé. Mais enfin bon, c'est pas ricochet. Voilà ce que dit encore saint Augustin. Tu étais au-dedans de moi, et moi, j'étais dehors. Tu étais au-dedans de moi, et moi, j'étais dehors. Rappelez-vous ce que disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mon ciel à moi, il est là, dans mon cœur. Le ciel, il est dans mon âme, dira sainte Élisabeth de la Trinité. Encore un changement de paradigme. Bien sûr que le ciel, c'est la gloire divine avec le Christ, mais il est déjà en moi puisque j'ai reçu la vie éternelle au baptême. Si la vie éternelle j'ai reçu au baptême, c'est que ce royaume, il est en moi. Il grandit en moi, comme une graine qui devient un grand arbre, comme un peu de levain dans la pâte, comme une perle au milieu d'un champ. Tout est intérieur dans ce que dit Jésus, tout est en nous. Tout commence à l'intérieur et grandit en nous. Alors quand on dit ciel, avec un Z majuscule, on dit aussi mon ciel à moi, mon ciel intérieur. Je désire retrouver l'intériorité là où le ciel est déjà commencé. Le ciel n'est pas dans les nuages, il est tout au fond de nos cœurs. À chaque instant de notre éternité s'ouvre un chemin d'éternité. Dans la liturgie, on dit que le ciel rejoint la terre. Vous savez cette fameuse phrase du prêtre, comme cette eau se mêle au vin, puissions être, nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Quand il met de l'eau dans le vin. Mettez de l'eau dans vos vins, dans votre vin. Mais puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Maintenant, à la messe, pas quand j'aurai 99 ans et 3 mois et 2 jours. Maintenant, le ciel, c'est maintenant. Le désir, donc, c'est ça, le désir du ciel. Ce ciel est toujours présent et éternel dans notre âme. Parce que notre âme est éternelle. Notre âme est éternelle. Donc, elle possède déjà en elle toute l'éternité. C'est logique, non? Il fallait y penser. À chaque instant de notre existence, notre âme est éternelle. Et cette union, ce désir, est donné à tous. Baptisé ou non baptisé. Voilà. La troisième partie, c'est hâter la venue du Christ. Hâter la venue du Christ. On n'en entend pas beaucoup parler non plus. Pourtant, c'est important de hâter la venue du Christ. Comment on fait? Je vais vous le dire. Jésus, donc, dont nous parlons depuis le début, le Christ, viendra à la fin des temps. Et d'accord? C'est dans le credo. Il reviendra pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Donc Jésus reviendra à la fin des temps. Mais nous devons l'attendre pour ne pas être surpris comme des voleurs. C'est ce que dit saint Paul. Attendez la venue du Seigneur. Non seulement il faut attendre la venue du Seigneur, se dire en fait il peut venir ce soir, à la fin des temps. Est-ce que j'ai bien rangé ma chambre? Est-ce que j'ai bien rangé mon cœur? Pour ça qu'il faut vivre les sacrements régulièrement. On ne sait jamais quand Jésus va venir. Il peut venir ce soir, dans 2 jours. Pas simplement quand on va mourir, mais pour toujours. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bon. Mais il faut pas simplement l'attendre, on peut aussi hâter cette venue définitive du Christ. C'est ce que dit Saint Pierre, et pas Saint Paul, dans la deuxième épître de Saint Paul, chapitre 3, verset 12. Parce qu'après, vous allez m'accuser que je dis n'importe quoi. 2 Pierre 3,12. Vous, dit Saint Pierre à des chrétiens, vous qui hâtez l'avènement du jour du Seigneur. D'accord? Donc on peut hâter la venue du Seigneur. Et puis, alors, un autre passage que vous connaissez peut-être, c'est l'Apocalypse. Qu'est-ce que dit l'Apocalypse à la fin? Dernière phrase de l'Apocalypse. Voici que je viens sans tarder. Ça, c'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif qu'il vienne. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Un mot que l'on connaît, c'est « Maranatha ».« Viens Seigneur Jésus. Dépêche-toi de venir s'il te plaît. Hâte-toi de venir. » Hâter la venue du Christ. Nous pouvons hâter cette venue. Non pas que on ait peur de ce moment, mais parce qu'on a hâte d'être en plénitude avec Jésus, parce qu'on désire voir Jésus, puis on a hâte aussi peut-être que l'injustice, le mal, la souffrance des gens s'arrête. Et aussi que justice soit faite, quelque part. Pourquoi hâter cette venue du Christ? C'est ce que nous disons dans le Notre Père. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. On dit ça tous les jours. On se rend même pas compte de ce qu'on dit. Que ton règne vienne.
Viens, mène-toi, dépêche-toi.
Comprenez? Le catéchisme catholique dit, cette parole de notre Père, c'est le Maranatha de toute l'Église. Que ton règne vienne, c'est le Maranatha de toute l'Église. C'est une belle phrase, hein? Catéchisme de l'Église catholique. Quand bien même cette prière ne nous aurait pas fait un devoir de demander l'avènement de ce règne, nous aurions de nous-mêmes poussé ce cri en nous hâtant d'aller éteindre nos espérances, étreindre nos espérances. Même s'il n'y avait pas le Notre Père, quelque part, au fond de nous, on se dit, bah, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur, viens. Enfin, je te verrai, en tous les cas, tous les autres te verront. Et puis tout le monde pourra voir que tu es vivant, que tu es ressuscité. Tout le monde sera dans la vérité. Et on retrouve cette idée dans Apocalypse 6, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Tarderas-tu à demander compte de notre sang aux habitants de la terre? C'est un petit peu violent, mais jusqu'à quand? Des fois, on se pose cette question. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'à quand l'iniquité, le mensonge, la violence? Jusqu'à quand? Tertullien, donc c'est un des auteurs des premiers siècles de l'Église, Tertullien dit, ils doivent obtenir justice, Seigneur, hâte donc la venue de ton règne. Voilà, hâter la venue du règne, c'est aussi que cesse l'injustice. Et puis on le dit à la messe, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous attendons, nous proclamons. Nous attendons que tu viennes dans la gloire. Hein, c'est le, doxologie. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Et nous attendons que tu viennes dans la gloire. Nous attendons que tu viennes dans la gloire. Alors, viens vite. D'Eucharistie en Eucharistie, le Christ se fait davantage présent dans nos vies, dans le monde, parce que l'Eucharistie est célébrée sur le monde. Quand même, dans la messe, on dit, lorsqu'on consacre le sang du Christ, pour la multitude, pour tous, on verse le sang pour la multitude. Non? Tous, voilà. Donc, chaque messe augmente l'eschatologie, le royaume de Dieu, et attire la venue du Christ. C'est une croissance attirante. Voilà ce que dit saint Paul. La messe est un peu la réalisation de ce que dit saint Paul. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc l'Eucharistie, c'est le gage du salut. C'est aussi le gage de la hâte de l'avènement de ce royaume. Ce que dit encore le catéchisme de l'Église catholique, jusqu'à l'heure où seront réalisés le royaume de Dieu, l'Église en pèlerinage, par ses sacrements et ses institutions qui se révèlent à tous, révèlent la figure du ciel, du siècle qui passe, elle dit elle-même parmi les créatures qui gémissent et qui attendent la manifestation des fils de Dieu. Donc l'attention vers le Christ qui est dans nos cœurs, c'est aussi une tension désirante, une tension de hâte que ce royaume arrive. C'est une tension eschatologique. Donc un chrétien doit avoir une tension eschatologique, de tendre vers la venue du Christ par excellence. On devra le vivre du matin jusqu'au soir. Est-ce aujourd'hui, Seigneur, que tu viendras? Je suis prêt. Pas tout à fait, mais bon, on va s'arranger. Voilà. Teilhard de Chardin écrit dans ce sens. Teilhard de Chardin, vous connaissez, Pierre Teilhard de Chardin, un prêtre jésuite français. Il dit cette phrase. Le Seigneur ne viendra vite que si nous l'attendons beaucoup. C'est une accumulation de désirs qui doit faire éclater la parousie. Voyez, la parousie, la venue définitive du Christ, ça dépend pas que du Père, ou de Jésus, ça dépend aussi de nous. Je relis cette phrase, hein. Le Seigneur ne viendra vite que si nous l'attendons beaucoup. C'est une accumulation de désirs qui doit faire éclater la parousie. Parousie, ça veut dire venue définitive. C'est une belle phrase. D'ailleurs, Saint Paul reprend certains chrétiens des premiers siècles qui pensaient que Jésus allait venir bientôt. Bah, attendez, travaillez, mangez, il viendra quand il viendra. Mais on peut hâter sa venue. Alors, hâtons-nous d'hâter la venue contre les athées, n'est-ce pas? Fermez la bouche des athées. Comment faire? Bien sûr que nous devons louer, prier, vivre la liturgie, les sacrements, mais on peut aussi prier, comme on le fait à la communauté des béatitudes, pour certains points que la tradition catholique a retenus, qui doivent s'accomplir avant la venue du Christ. Vous retrouvez ça dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, je vous en donne trois. Oui, c'est ça. Premièrement, le Seigneur viendra lorsque les chrétiens seront unis, l'unité des chrétiens. C'est pas pour aujourd'hui, certains diront. Peut-être, ça avance. La pleine communion entre catholiques, orthodoxes et protestants est un chemin précurseur de la venue du Christ. C'est la prière de Jésus que tous soient un. Et cela a une importance pour hâter la venue du Christ. Prions pour l'unité des chrétiens. La recherche de l'unité des chrétiens, c'est pas simplement pour se faire plaisir, c'est pas simplement parce que ça fait joli dans le décor, mais c'est une vision eschatologique. La conscience que le Christ reviendra quand tous les chrétiens seront unis. Pouvoir créer dans le Christ cette unité. Bien sûr qu'il y a des fragilités dans cette unité, que le Seigneur peut faire ce qu'il veut, mais il verra nos efforts. Éclairé par ce désir eschatologique, la recherche de l'unité chrétienne, de l'œcuménisme, eh bien, nous fait cheminer tous ensemble vers la venue du Christ. La deuxième chose que le catéchisme retient de ce qui doit se passer avant la venue du Christ, ce qu'on appelle l'évangélisation de tous les peuples. C'est ce que dit Jésus, Matthieu 25, la bonne nouvelle du règne de Dieu doit être proclamée dans le monde entier, pour que tous les peuples entendent le témoignage du royaume. Alors seulement viendra la fin. Matthieu 24, 14. Pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Voilà. Là aussi, on peut se dire, il y a encore du temps, hein. La Chine, l'Inde, des milliards de personnes qu'on n'a jamais peut-être évangélisées. Il faut donc attendre et désirer la conversion de chacun, de tous, et peut-être même des Français qui sont athées de plus en plus, nos voisins. Le Christ ne viendra, n'adviendra, comme il l'a dit dans Saint Matthieu, lorsque l'évangélisation sera définitive et totale. Donc l'évangélisation, la mission, a une valeur est une œuvre eschatologique. Vous voyez que tout, en fait, est eschatologique. Hein. Mais c'est deux choses. Hein. Donc, il faut que dans nos cœurs, dans nos prières, nous prions pour l'unité des chrétiens et pour l'évangélisation des peuples. Si vous voulez que Jésus vienne le plus vite possible. L'unité des chrétiens et l'évangélisation des peuples. Il faut patienter le temps nécessaire pour que tous entendent parler de Jésus, du Christ. Mais pas patienter passivement. Pas patienter en attendant que quelqu'un fasse le travail. Patienter en étant nous-mêmes témoins. En étant nous-mêmes évangélisateurs. Et le troisième signe précurseur de la venue de Jésus, c'est, devinez ou pas? Troisième signe, vous devinez ou pas? Non, pas Marie. Israël, qui a dit ça? Plus quatre. Le retour de tout Israël dans la vraie alliance. C'est ce que nous dit saint Paul, du chapitre 9 au chapitre 11, aux Romains. Voilà, le retour d'Israël, voilà, la reconnaissance d'Israël du Messie. Israël, ça ne peut pas dire l'Israël d'aujourd'hui, c'est pas l'Israël politique, c'est pas l'Israël pays, c'est l'Israël de cœur, le vrai Israël. Ceux qui cherchent le Seigneur. Saint Jean disait, au chapitre 4, verset 43, « Le salut vient des Juifs. C'est sur eux que sont greffés les chrétiens non-juifs. L'Église ne peut pas se passer d'Israël. Et comme le dit Paul, malgré tout ton orgueil, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Voici donc le mystère d'Israël. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé. Israël tout entier sera sauvé. Romains 11, 25. Donc l'endurcissement d'Israël est temporaire, et quand viendra le Seigneur, tous les peuples seront entrés dans une alliance commune envers Dieu. C'est ce que dit aussi le Concile Vatican II, en soulignant la dimension eschatologique, nous arriverons à une plus grande conscience que lorsqu'on considère l'avenir du peuple de Dieu, de l'ancienne et de la nouvelle alliance, nous tendons tous ensemble sur le but unique, la venue et le retour du Messie. Voilà, vous pouvez aussi prier pour Israël, l'Israël spirituel, hein, Israël qui doit rentrer dans cette unité. L'Église catholique a changé son langage, on ne parle plus jamais de la conversion des Juifs. C'est interdit de dire ça. On ne peut pas dire, les Juifs n'ont pas à se convertir. Il y a ce qu'on peut appeler une illumination. Pas une élimination, une illumination, une lumière qui ne viendra pas de nous, de notre volonté de l'échanger, mais du Christ à la fin des temps. C'est ce que dit saint Paul. Voilà, on ne prie pas pour la conversion d'Israël, on prie pour qu'ils reconnaissent la lumière du Christ. C'est un grand mystère quand même, hein. Un grand mystère. Voilà, trois grands mystères, donc l'unité des chrétiens, l'évangélisation des peuples, le retour d'Israël, voilà ce que sur ce quoi nous pouvons prier pour hâter la venue du Christ. Voilà, nous désirons le Christ, nous savons qu'il est présent dans nos vies chaque jour, nous savons qu'il est dans nos cœurs par notre baptême, nous voulons que les autres soient sauvés, moi à la rigueur, et puis surtout, nous voulons qu'il vienne le plus vite possible, ce qui est tout à fait logique, pour que tous le connaissent, mais nous devons prier pour hâter la venue du Christ.